Radio Prague, les informations.
Bonjour Alexis Rosenzweig au micro pour le bulletin dont voici les titres. Visite du Premier ministre tchèque Petr Nečas en France jeudi et vendredi. La Cour constitutionnelle tchèque donne partiellement raison à ceux qui refusent la vaccination obligatoire de leurs enfants. Et le président Václav Klaus s'en prend aux médecins de l'initiative. Merci, on s'en va. Le Premier ministre tchèque Petr Nečas sera donc à Paris ce jeudi et vendredi pour une visite au cours de laquelle il doit notamment rencontrer son homologue français François Fillon et le président de la République Nicolas Sarkozy. Selon l'ambassadeur tchèque en France, Madame Marie Chatardová, les principaux thèmes abordés lors de ces rencontres concerneront entre autres le secteur de l'énergie et des sujets de politique européenne. Le chef du gouvernement tchèque profitera également de son déplacement dans la capitale française pour rencontrer le secrétaire général de la francophonie, Abdou Diouf. La Cour constitutionnelle a donné partiellement raison à Pavel Vavrička, qui refuse de faire vacciner ses enfants. Selon le verdict de la Cour, les autorités et les organes de l'administration et de la justice ne devraient pas faire désormais pression sur les parents qui refusent pour des raisons individuelles et bien fondées la vaccination de leurs enfants, qui est pourtant obligatoire en République tchèque. Sur le plan général, la Cour n'a cependant pas mis en cause la nécessité et la constitutionnalité de la vaccination obligatoire. Selon la Cour constitutionnelle, c'est une question politique et très spéciale qu'elle n'est pas compétente pour juger. Le président tchèque Václav Klaus a critiqué l'initiative des médecins, l'initiative appelée « Merci, on s'en va » dont on a déjà parlé à plusieurs reprises sur Radio Prague, et le chef de l'État a manifesté son soutien au ministre de la Santé Léo Scheger. Selon le président, cette initiative, dans le cadre de laquelle 3800 médecins hospitaliers ont donné leur démission pour imposer leurs revendications salariales, serait une campagne d'intimidation. À son avis, le ministre de la Santé ne peut plus faire de concessions, d'autres concessions, et les citoyens tchèques ne le souhaitent pas. Le président a apprécié aussi les médecins et les infirmières qui ne se sont pas joints à cette campagne. Selon le Premier ministre tchèque Petr Nečas, l'armée pourrait aider les hôpitaux tchèques en cas de départ massif des médecins hospitaliers prévu pour la fin février, leur démission prenant effet si aucun accord est trouvé le 1er mars. La République tchèque s'est jointe à une importante opération contre l'immigration clandestine organisée ce mardi dans plusieurs pays européens. Une information des organismes de coopération policière Europol et judiciaire Eurojust. Dans le cadre de cette opération internationale, réalisée entre autres à Lille, Paris, Berlin et Prague, ont été interpellées 35 personnes en tout. 19 personnes interpellées en France, 8 en Allemagne, 5 en Hongrie et 2 en République tchèque. Selon une déclaration, un communiqué de l'Europol et d'Eurojust, c'était un réseau sophistiqué dont les éléments se trouvaient dans une petite dizaine de pays européens et également au Vietnam. On passe au sport avec un mot de football et le défenseur international tchèque David Rozehnal, prêté jusqu'en juin avec une option d'achat par Hambourg, qui souhaite poursuivre l'aventure avec le club de Lille, le LOSC, qui est, vous le savez, actuellement en tête du championnat de France. « J'aimerais rester, mais cela ne dépend pas de moi », a indiqué David Rozehnal. La météo, le ciel est toujours dégagé en République tchèque et devrait l'être encore ce jeudi, avec des températures maximales qui grimperont jusqu'à 7 degrés. Dans une poignée de secondes, vous retrouvez Anna Kubišta pour la suite du programme en français de Radio Prague. Et pour plus d'infos, c'est www.radio.cz.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous. Retour aujourd'hui sur une histoire à rebondissement, celle de l'épopée slave, célèbre cycle de toiles du peintre Art Nouveau Alphonse Mucha. Histoire toujours, mais histoire du sport cette fois, puisque le footballeur tchèque de légende Josef Masopust souffle ses 80 bougies. Nous reviendrons sur les grands moments de sa carrière et puis ce sera décidément une émission très historique puisque comme tous les mercredis, ce sera la rubrique histoire qui occupera toute la deuxième partie de ces 20 minutes d'information de Radio Prague. Bonne écoute. Décidément, la saga des peintures de l'épopée slave semble ne pas avoir de fin et va de rebondissement en rebondissement depuis plusieurs années. Résumé du nouvel épisode de cette histoire plus qu'épique. Mais avant tout, replantons le décor. En 1928, à l'occasion du 10e anniversaire de la naissance de l'État tchécoslovaque, le peintre tchèque Alphonse Mucha, au sommet de sa gloire, lègue à la ville de Prague l'épopée slave. Un immense cycle de 20 tableaux de 6 mètres sur 8 retraçant l'histoire des Slaves. Ce don comporte comporte toutefois une condition, un pavillon spécial doit être édifié pour accueillir ce qu'il considère comme son chef-d'œuvre, fruit de près de 20 ans de travail. Jamais aucun pavillon ne sera construit, et comme par le passé, un projet de bâtiment tombe à l'eau à nouveau en 2006. L'épopée slave reste donc au château de Moravski Krumlov, où les tableaux se trouvent depuis toujours. Reste que les toiles appartiennent à la municipalité de Prague. En juillet 2010, le contrat de location de Moravski Krumlov expire. Prague souhaite pouvoir exposer les toiles au palais des expositions. Nouveau rebondissement, les héritiers Mucha craignent pour la bonne conservation des toiles, après que 5 toiles aient été roulées et emballées en octobre par des envoyés de la municipalité. Leur transport vers la capitale tchèque est retardé en raison de nouveaux différends juridiques entre les deux parties. Aujourd'hui, la mairie de Prague espère que les toiles sont en bon état, mais pour le restaurateur Karel Stretti, leur transport mardi au palais des expositions était inutile.
Převoz nebyl nutný, já jsem ten cyklus jsem revidoval.
Leur déplacement n'était pas du tout nécessaire. J'ai expertisé le cycle en 2000 et à nouveau à l'automne 2010. En 10 ans, rien n'avait changé. Les toiles étaient en parfait état. L'espace du château où elles ont été exposées n'était pas du tout inadéquat, contrairement à ce qu'on a pu entendre. Dire que les toiles y étaient menacées ne correspond pas du tout à la réalité. Moravski Krumlov a très bien pris soin de l'épopée pendant ces 40-50 dernières années.
De même que Karel Stretti, le petit-fils de Mucha, John Mucha, craint pour les toiles et le milieu dans lequel elles vont devoir s'acclimater entre les murs du palais des expositions. Pour le restaurateur, le simple fait d'avoir emballé et roulé ces toiles et que celles-ci soient restées en l'état jusqu'à aujourd'hui est problématique.
Ma dernière expertise en ce sens soulignait qu'il n'était pas du tout recommandé de déplacer ces toiles, de les emballer de manière répétée. Elles ne sont pas uniquement menacées par les variations climatiques, mais également au niveau mécanique tout simplement. Elles sont accrochées à des cadres par des cordes, comme les voiles d'un bateau. Donc si on les enroule, et de surcroît sur un rouleau aussi petit, les risques de dégâts sont grands. Mais le vrai problème, c'est qu'elles soient restées si longtemps enroulées dans un emballage qui ne respire pas.
La polémique a donc repris de plus belle entre Prague et Moravski Krumlov. Jeudi, les représentants des deux villes devraient se rencontrer pour évoquer le proche avenir. Prague souhaite exposer les 5 toiles au public à partir du mois de mars et y rajouter les 15 manquantes à l'automne. De son côté, le maire de Moravski Krumlov s'appuie sur un accord passé selon lequel tout le cycle sera à voir au château pendant la saison touristique. Pour lui, un transfert complet reste inenvisageable tant que Prague n'aura pas construit le fameux pavillon. La saga à rebondissement autour de l'épopée slave est donc loin d'être terminée. Premier footballeur tchèque et de l'Europe de l'Est à avoir reçu le Ballon d'Or en 1962, 41 ans avant Pavel Nedvěd, Josef Massopust fête ses 80 ans ce mercredi. Un anniversaire célébré en grande pompe en République tchèque, où les amateurs de ballon rond se souviennent d'un joueur à la technique hors norme et d'un modèle de fair play et de modestie. Le portrait de Josef Massopust avec Guillaume Narguet.
Quinzième minute de la finale de la Coupe du Monde en juin 1962 à l'Estadio Nacional de Santiago du Chili. L'envoyé spécial de la radio tchécoslovaque est euphorique. Contre le Brésil champion en titre, la Tchécoslovaquie vient d'ouvrir le score grâce à un but de son meneur de jeu, Josef Massopust.
J'aurais préféré marquer non pas le premier, mais le dernier but de ce match, le but victorieux qui nous aurait permis de ramener la coupe chez nous, en République socialiste tchécoslovaque.
Buteur malheureux d'une finale de Coupe du Monde finalement remportée par le Brésil, 3-1, la deuxième finale de la Tchécoslovaquie après une première également perdue contre l'Italie en 1934, Josef Massopust aura de quoi se consoler quelques mois plus tard. À Prague, avant le coup d'envoi d'un quart de finale de Coupe d'Europe des clubs champions, avec son club du Dukla contre le grand Benfica de Zevio, il reçoit le Ballon d'Or France Football récompensant le meilleur joueur européen de l'année 1962. À l'époque, un an avant le légendaire gardien soviétique Lev Yashin, Josef Massopust est le premier joueur d'un pays d'Europe de l'Est à se voir attribuer le prestigieux trophée. Correspondant de France Football en République tchèque depuis de nombreuses années, Stanislav Rabier explique quelle est la place de Josef Massopust dans la riche histoire du football tchèque.
Josef Massopust était le meilleur joueur du siècle, mais ses comparaisons, c'est trop terrible. Quel meilleur? Massopust ou Nedved, Pelé ou Maradona? Ce sont seulement des questions, c'est des spéculations. En notre opinion, Massopust, c'est un joueur historique.
Élu plus grand joueur tchèque du XXe siècle, en 2000, Josef Massopust a marqué la mémoire des amateurs de foot, d'abord pour son élégance sur le terrain.
Le grand créan Ota Pavel a écrit « Massopust, c'est bizarre, pas de buteur, pas de rapide, c'est un meneur de jeu, c'est organisateur, c'est un chef, technicien. » Pelé a dit « Ce n'est pas possible, c'est l'Européen, c'est d'origine tchèque, ou tchécoslovaque, c'est d'origine tchèque, c'est le Brésilien. » Proč to nejpan Minu, jako Didi, Garinča, se Brazilian, se technika la même chose. Massopust, grand technicien à mener de jeu.
Ses slaloms, entre ses adversaires, sa conduite de balle, tête droite élevée, ou encore ses passes millimétrées, restent un demi-siècle plus tard bien présents dans le souvenir de tous ceux qui ont eu le privilège de voir évoluer Massopust depuis les tribunes, de jouer à ses côtés, ou même dans le camp opposé. Un temps que pas seulement les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais dont le célèbre attaquant portugais Eusébio, lui, se souvient bien. Sacré à son tour Ballon d'Or 3 ans après Massopust, Eusébio était présent à Prague cette semaine à l'occasion des nombreuses cérémonies qui ont accompagné la célébration des 80 ans de son ami Joseph.
C'est pour moi un grand plaisir d'être présent. Lorsque j'ai appris que Joseph allait fêter ses 80 ans, j'ai décidé de venir en personne. Je suis un peu plus jeune que lui, mais je considère que Massopust est un bien meilleur footballeur que moi. Lui, son rôle sur le terrain était plus compliqué que le mien. Il devait créer, organiser le jeu, alors que moi, je me contentais de finir les actions et de marquer des buts. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. C'est pour cette raison que je suis vraiment très heureux d'être ici et que je souhaite à mon ami de vivre encore de nombreuses années.
Eusébio, Franz Beckenbauer, Alfredo Di Stefano, Pelé, autant de grands noms du jeu qui, dans les années 60, ont croisé le chemin de Josef Massopust sur les stades d'Europe et du monde et qu'une sincère amitié continue de lier aujourd'hui encore. Stanislav Rabier le confirme. Ce geste de fair-play qui a valu à Josef Massopust l'admiration de Pelé et ce surnom de chevalier du football remonte également à la Coupe du Monde 1962. Deux semaines avant la finale contre le Brésil, lors d'un match de poule opposant les Tchécoslovaques aux mêmes adversaires, Massopust se retrouve face au grand Pelé, victime d'une blessure musculaire, et s'arrête, conscient du handicap de son vis-à-vis pour permettre au roi de faire une passe. Pelé lui rend la politesse en mettant le ballon en touche. Alors forcément, ses talents de footballeur hors pair et sa qualité de gentleman valent aujourd'hui à Josef Massopust de nombreux honneurs. Le petit monde du football tchèque a décidé de mettre les petits plats dans les grands. Une statue grandeur nature va donc être installée devant l'entrée du stade du Dukla de Prague, théâtre de ses exploits autrefois. Un film documentaire est en cours de réalisation et une exposition sera bientôt inaugurée au musée national. Rien que ça, pour un homme qui aurait préféré fêter ses 80 ans dans l'intimité de son modeste appartement pragois.
Je ne m'en suis pas encore remis. Je ne m'attendais absolument pas à tout ça. Je pense que c'est exagéré. On a même érigé une statue à mon effigie alors que je ne suis pas encore mort. Vous savez, je ne suis qu'un footballeur, un joueur parmi les milliers qui ont porté le maillot de la Tchécoslovaquie. C'est pourquoi j'estime que c'est trop d'honneur pour une seule personne.
Une personne qui serait toutefois sans doute devenue une vedette mondiale du jeu si le régime politique de l'époque en Tchécoslovaquie ne l'avait pas empêché de rejoindre les plus grands clubs européens. Un footballeur hors du commun qui a su rester un homme comme les autres, et c'est aussi ce que les anciennes générations de Tchèques amoureux de foot ont voulu rappeler aux plus jeunes.
C'est la fin de ces faits et événements. Tout de suite, on passe à la deuxième partie de notre émission, une émission très historique, comme je vous le disais en introduction. Le 30 janvier dernier s'est achevée la 37e édition du célèbre Festival international de Angoulême, consacré à la bande dessinée. L'occasion d'aborder aujourd'hui, sans exhaustivité, certains aspects de l'histoire de l'animation et de la bande dessinée en terre tchèque, en particulier sous le communisme. David Allan.
Chapitre de l'histoire.
Radakche milka, muhumku, rakosnichka, a krutechka, a chtezhlistka.
J'aime Rakosinček, Kaltečak et compagnie. Aujourd'hui comme hier, les jeunes enfants tchèques apprécient particulièrement ces héros de bande dessinée, la petite taupe, le trèfle à quatre feuilles. Au-delà de la rupture de 1989, c'est un élément de continuité inattendu d'avec la période communiste. Malgré un contexte radicalement différent, les enfants tchèques partagent avec leurs aînés certains de leurs héros. Au musée de la ville de Prague se tient d'ailleurs une toute petite exposition sur l'un d'entre eux, Štirlistek, le trèfle à quatre feuilles. Preuve du succès qu'il rencontre encore aujourd'hui, l'exposition a été prolongée jusqu'au mois d'avril. Créé par le dessinateur Jaroslav Neněček, Štirlistek paraît pour la première fois en 1969 aux éditions Orbis. C'est à la demande des lecteurs eux-mêmes que des suites seront données aux premiers essais. Dans les années 1970 et 1980, la bande dessinée sera parfois tirée à plus de 200 000 exemplaires et paraîtra même en anglais, en allemand et en grec. La réputation internationale de l'animation tchèque liée à la bande dessinée remonte aux années d'après-guerre. Mais elle s'inscrit surtout dans une tradition de la mise en scène qui remonte au moins à l'âge baroque et à la contre-réforme. Civilisation de la dramatisation esthétique, la bohème baroque mêle peinture et sculpture au service de l'architecture afin d'éveiller le sentiment religieux. Prague, et en particulier Malastrana, se présente comme une vaste scène de théâtre. Le théâtre d'animation se développe durant la Seconde Guerre mondiale, en partie en raison de l'interdiction de diffusion des dessins animés américains. Il connaîtra une renommée internationale dans les années 1950, avec le théâtre de marionnettes de Jiří Trnka, un créateur à l'esprit indépendant. C'est à l'occasion du Festival de Cannes en 1959 qu'un journaliste anglais le surnomme le Walt Disney de l'Est. Simplificatrice, la formule n'en traduit pas moins la réputation de Trnka. En 1968, il se voit décerner le prix Hans Christian Andersen pour son illustration des contes. D'ailleurs, d'autres héros pour enfants créés par des auteurs tchèques connaîtront une postérité durable dans le bloc soviétique, mais aussi en Occident. Ainsi, Kartečak, la célèbre petite taupe en français, créée par Zdeněk Miller et diffusée depuis 1956 à la télévision tchèque. Bien sûr, ces séries destinées à un public très jeune étaient apolitiques et ne rencontraient, a priori, pas de problème avec la censure du régime communiste. D'ailleurs, le numéro 5 des aventures de Štirlistek, paru en 1969, évoque presque, par sa couverture, une sorte de Tintin au pays des soviets, mais à l'envers. Son titre, Štirlistek dans l'Ouest sauvage, on y voit l'un des protagonistes en cow-boy flingueur. Ce n'était sans doute pas le vœu des auteurs, mais cela ne pouvait que plaire aux censeurs dans leur vision d'un Occident décadent. D'autres auteurs, en revanche, doivent affronter directement les rigueurs de la censure. Ainsi, Kaya Saudek, auteur avec Jaroslav Weigel de la bande dessinée Lip Stulian, alias le voleur de grand chemin, Philippe de Mangenstein. La série est publiée en 1972 dans l'hebdomadaire pour jeunes Mladý Svět. La bande dessinée sera tellement populaire qu'elle participera au succès du magazine lui-même, augmentant ses tirages d'environ 100 000 exemplaires. Chaque mercredi, jour de publication de Mladý Svět, on voit se former devant les locaux du magazine d'impressionnantes queues de lecteurs impatients. Malgré cet incontestable succès, la série ne sera publiée qu'un an, avant d'être interdite par la censure en décembre 1972, non sans provoquer les protestations de nombreux adeptes. Le printemps de Prague est encore en cours de normalisation. Du divertissement pour endormir la population, oui, mais dans le cadre d'un strict contrôle de l'orthodoxie, voire de l'esthétique officielle. Les autorités reprochent à Lipstulian un style trop américain. D'autres journaux zélés critiquent un caractère kitsch bourgeois. Ce faisant, ils tentaient de se placer sur un terrain formel, comme l'avaient fait durant les années 1960 les critiques officielles face au groupe de Big Beat. Durant les années 60, le régime de Novotny n'avait pas pu empêcher l'éclosion de groupes de rock formés sur le modèle anglo-saxon. À l'heure de la normalisation, tout écart était devenu impossible. Il faudra attendre la chute du régime pour voir reparaître les œuvres de Kaya Saudek. Durant les années 1970 et 1980, les autorités considèrent les bandes dessinées d'un œil méfiant, les accusant de mauvaise influence sur la jeunesse. Les dessinateurs et les chefs de magazine pratiquent donc une auto-censure bien comprise afin d'éviter tout sujet polémique. D'ailleurs, lorsqu'à l'été 1972, le comité éditorial de Mladiswiet fait face aux pressions du régime, il publie une interview avec Saudek où celui-ci nie tout contact ou toute influence de la part des bandes dessinées occidentales. Le résultat sera contraire aux attentes et une campagne officielle de dénigrement immédiatement lancée par le régime. La rédaction de Mladiswiet tentera, non sans habileté, de redonner vie à la série. Le héros deviendra Tcherny Filip et l'action sera transposée à une autre période de l'histoire tchèque. On retrouve là les techniques de certains auteurs du XVIIIe siècle en Occident, choisissant un lieu imaginaire comme action pour échapper à la censure. Mais le subterfuge ne sera pas suffisant et après 6 épisodes, Tcherny Filip connaît le même sort que Lipstulian. Aujourd'hui, la situation de la bande dessinée en République tchèque a bien sûr évolué. Interrogée sur nos ondes en décembre dernier, Jana Fantova du festival de bande dessinée Comics Fest livrait un témoignage éloquent.
C'est surtout grâce aux éditeurs. Ils ont commencé à publier de plus en plus de livres, qu'il s'agisse de traductions ou de versions originales. Les gens ont donc pu découvrir plus de publications intéressantes. Si Comics Fest a participé, nous en sommes heureux, car l'ensemble du festival est conçu comme un soutien à la bande dessinée, comme un média pour les adultes, afin de le débarrasser de l'étiquette « littérature pour enfants ».
Depuis la chute du régime, la bande dessinée réémerge peu à peu en République tchèque. Pourtant, on déplore souvent un manque d'intérêt de la part du public. C'est oublier que des bandes dessinées pour enfants, mais aussi pour adolescents, avaient connu un succès massif pendant la période communiste.
C'est la fin des émissions en français de Radio Prague. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ahoy.